Ce soir, nous allons méditer quelques versets dans l'Épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens. Et nous allons lire les versets, c'est au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Et puis, jusqu'au verset 14. Alors Philippiens, chapitre 3, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez là beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. C'est d'abord, je vous rappelle que le sujet de l'épître aux Philippiens, c'est que dans l'église des Philippiens, il y avait une dispute. Et deux personnes se disputaient. C'était deux personnes estimables parce qu'elles avaient beaucoup servi le Seigneur. Et je vais vous lire même parce que comme je vous ai à plusieurs reprises parlé de ces deux personnes, c'est au chapitre 4, c'est les versets 2 et 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et pour, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Donc vous voyez que deux femmes avaient été les collaboratrices de Paul et elles avaient été utiles dans le ministère de Paul et elles avaient combattu. Donc elles n'avaient pas fait la cuisine seulement, elles n'avaient pas seulement lavé le linge. Parce que je me rappelle avoir entendu certaines réflexions au sujet des femmes, et la parole de Dieu ne nous autorise pas à faire ce genre de réflexion. Les femmes ont un rôle très important dans l'Église, et c'est un rôle même de combattante. Ce n'est pas des personnes qui font de la figuration ou qui simplement sont là pour servir les hommes. Malheureusement, c'est souvent le cas. Et c'est dommage parce que l'Église se prive d'un élément très important, ce sont les femmes. Il y a dans une Église des hommes et des femmes. Et les hommes ne doivent pas tout faire. Et il y a la part des femmes et il faut qu'elles la remplissent. Et cette part, eh bien, est une part active, une part sérieuse, une part conquérante. Voilà, elles ont combattu, donc elles ont gagné des victoires, elles ont vraiment fait quelque chose. Et c'était dommage que dans cette église des Philippiens, eh bien, ces deux femmes aussi compétentes et qui avaient eu tant de responsabilités, eh bien, finissent par se disputer et avoir une rivalité l'une par rapport à l'autre. Alors, la rivalité, je pense qu'elle trouve sa réponse dans ce chapitre 3. C'est quand Paul dit qu'il y avait des faux circoncis, des personnes qui s'étaient introduites dans l'église pour apporter un évangile, si je puis m'exprimer ainsi, frelaté. Ils avaient un complément à l'évangile. Voilà, l'évangile de Jésus-Christ ne suffisait pas. Il fallait rajouter la circoncision, le sabbat, les ceci et les ça, et tout ce que prescrivait la loi de Moïse. Et il disait, vous n'êtes pas libre seulement si vous n'avez pas accompli la loi de Moïse en plus du sang de Jésus-Christ. Et c'est faux. Le sang de Jésus-Christ suffit seul. Nous n'avons pas besoin pour nous approcher de Dieu d'autre chose que du sang de Jésus-Christ. Et je le dis et je le maintiens, parce qu'il y a des tendances dans les églises et dans nos églises, on ne parle pas d'églises qui sont ailleurs, mais dans nos églises, à rajouter quelque chose, toujours, au sacrifice de Jésus-Christ. Et la tentation est forte. Alors, il y a des modes hein, qui arrivent comme ça. C'est se lever pour chanter des cantiques, se lever pour prier, se lever pour faire une chose, pour une autre. Alors, on est dans les formes. Et où s'arrête-t-elle? Pour être plus saint, est-ce que j'ai besoin d'autre chose que de Jésus-Christ? Est-ce qu'une forme va m'amener plus loin avec Jésus-Christ? La parole de Dieu dit non. C'est dommage parce que comment dire, dans les églises, il y a toujours cette tentation du judaïsme qui s'infiltre. Et nous avons besoin de pratiquer, voilà, on fête tel jour, on a tel ceci, et puis on a telle autre chose, et puis une autre, et puis on en rajoute, on rajoute, on rajoute, si bien que on perd de vue l'essentiel. L'essentiel reste toujours Jésus-Christ. On s'appuie sur Jésus-Christ. Nos yeux sont levés vers Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul dit ici. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alors, quelles sont ces mêmes choses qu'il a déjà dites? Parce que, bon, on pourrait dire, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est réjouissez-vous dans le Seigneur, il a déjà dit, il va le redire encore. Mais je ne pense pas que c'est la chose tient en un verset. Déjà, au chapitre 1, Paul nous avait dit que Christ, pour lui, c'était sa vie. Il disait, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et puis il disait, je suis pressé des deux côtés. Christ, 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 Christ prend la première place. Si vous voulez avoir un remède à la division et aux querelles, c'est Christ. Parce que Christ sera toujours le point central, le personnage unique de l'histoire. Il est la personne élément essentiel de l'Église. Nous ne pouvons rien faire sans Christ. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans Christ. Tourne autour de Jésus-Christ. Et quand l'Église s'occupe de toutes sortes de choses qui encombrent le culte et qui nous amènent à considérer autre chose que Jésus-Christ, elle est bien en chemin pour entrer dans l'erreur. C'est comme cela, parce que toutes ces choses occultent Christ, cachent Jésus-Christ. L'important, quand je m'approche de Dieu, quand je viens rendre un culte à Dieu, quand je viens au milieu des frères et sœurs, quelle est la pensée qui remplit mon cœur, qui me captive, qui m'amène toujours plus loin? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Quand vous vous réunissez, j'étais très heureux que Mike ait choisi ces cantiques qu'il a choisis, parce qu'il nous parle de Jésus-Christ. C'est nous devons toujours parler de Jésus-Christ. Quand des frères et sœurs se rencontrent, se rassemblent, c'est au nom de Jésus-Christ. Il est le point central de nos vies, il est le point central de nos relations et de notre communion fraternelle. Et après, comme dit Paul, ne discutez pas sur les opinions, parce qu'elles créent des divisions et elles empêchent de se tourner vers Jésus-Christ. Elles vous font manquer l'essentiel. Et c'est dommage. Il y a des personnes qui vous amorcent. Oui, mais bibliquement, la femme doit mettre un voile sur la tête. Et depuis quand? Est-ce que le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé de la même manière pour les femmes que pour les hommes? Est-ce que les femmes sont moins bien sauvées que les hommes? Est-ce que les femmes ont besoin de rajouter quelque chose sur leur tête pour prouver qu'elles sont des chrétiennes? Ce qui prouve que l'on est chrétien, c'est notre vie, c'est notre manière d'être. Et la parole de Dieu, quand il est parlé des femmes, c'est dans Pierre, il est dit une manière chaste et réservée. C'est leur rôle. mais sauvés par le même sang de Jésus-Christ, participant aux mêmes promesses, ayant la même joie dans l'Église, les mêmes privilèges, la même capacité à s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. C'est sur ces bases-là que l'on doit rester et se maintenir jour après jour, instant après instant, année après année. L'Église de Dieu est bâtie sur Jésus-Christ, et pas sur des formes, et pas sur des rites, et pas sur des trucs et des machins que l'on rajoute ou que l'on enlève. C'est Jésus-Christ qui doit toujours prendre la première place. Et c'est ce que Paul leur dit. Il leur dit, je ne vous lasse pas de vous répéter les mêmes choses. La même chose, c'est Jésus-Christ. La première fois, nous avons vu dans le chapitre 1, il a fait une application à sa propre vie. Jésus-Christ, je fais tout pour Jésus-Christ. Je suis prêt à subir les outrages et les sévices et les choses les plus graves contre ma vie, pourvu que Jésus-Christ soit glorifié. Ensuite, au chapitre 2, c'est la deuxième chose qu'il a répété sous une autre forme. Il nous a parlé comment Jésus-Christ a renoncé à tout, a renoncé à tout ce qu'il était dans le ciel pour glorifier le Père, pour que le Père soit connu, pour que le Père soit aimé, pour que nous amener au salut et pour que nous puissions être un jour en communion avec lui dans la présence du Père. Et c'est toujours ce renoncement, c'est cette perte de soi-même pour Jésus-Christ. Alors, Paul le dit pour lui, il fait une application à lui au chapitre 1. Chapitre 2, c'est à Jésus-Christ qui fait une application. Et au chapitre 3, eh bien, de nouveau, il fait une application à lui-même. Et il montre que le point central, toujours, c'est Jésus-Christ. Et l'épître aux Philippiens a cette caractéristique-là, qu'elle nous présente Jésus-Christ sous toutes sortes de facettes. Vous pouvez prendre presque un verset sur deux ou sur trois et vous trouvez quelque chose qui nous est dit sur Jésus-Christ. J'ai pris la peine, il y a bien des années, de le noter dans ma Bible. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour cela que j'ai fait une recherche précise, sérieuse, et j'ai passé du temps. Mais j'ai cherché tous les versets qui me parlaient de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Jésus-Christ, c'est ma joie. Jésus-Christ, c'est ma vie. Jésus-Christ est mon horizon, il est tout mon bien, il est tout ce dont j'ai besoin. C'est cela le plus important. Nous, chrétiens, nous sommes centrés sur Jésus-Christ et nous nous appelons chrétiens. Et chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Vous serez mes disciples quand vous ferez tout ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il nous a prescrit? Aimez-vous les uns les autres. C'est ayez de l'amour les uns pour les autres. Ne portez pas des jugements hâtifs. Et c'est ce qui se passait dans cette église des Philippiens. Et Paul est obligé de les ramener à l'essentiel, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc, il ne leur dit pas à ces femmes, « Entendez-vous, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit en bon français. » C'est essayer de faire la part des choses. Il y a des choses qui sont inutiles, d'autres qui sont utiles. Disputez-vous au moins pour des choses qui en valent la peine. Et tout le monde pense que la dispute par laquelle il se dispute, eh bien, en vaut la peine. Sinon, il ne se disputerait pas. Donc, vous pouvez toujours parler de cette manière-là. Ça ne sert à rien. Parce que la personne croit qu'elle a raison et qu'elle est pour la bonne cause. Mais ici, eh bien, Paul ramène à Jésus-Christ. Et il dit, mais j'aurais sujet, moi, d'avoir une bonne opinion de moi. Parce que si on doit compter sur les mérites, alors je suis un champion des mérites. Si vous regardez ma vie, eh bien, il cite, hein, moi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance dans la chair. Hein. Il énumère toutes sortes de choses. Mais avant, il leur dit, et c'est parce qu'il y avait donc ces personnes qui étaient arrivées, qui étaient la cause probablement de la dispute. Alors je n'affirme rien, hein, parce que rien ne permet d'être plus affirmatif que ça. Il y a une bonne piste, voilà, ça ne va pas plus loin. Hein. Après, quelqu'un va trouver autre chose, je lui laisse de trouver autre chose. Mais bon, je pense que ces personnes causaient la pagaille dans les églises où Paul avait travaillé. Nous les trouvons à plusieurs reprises dans les églises, dans les Actes des Apôtres. Quand on lit, on se rend compte qu'elles suivaient Paul, Paul fondait une église et eux allaient après et ils mettaient, c'est très bien ce qu'il a dit, Mais il faut pas oublier que Moïse a parlé, Dieu a parlé à Moïse aussi avant. Donc Jésus-Christ, c'est d'accord, mais Moïse aussi. Donc voilà. Et il dit, il parle de la circoncision. C'est parce que Paul dit, hein, nous nous glori car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Cette circoncision, c'est le renoncement à soi-même. C'est la perte de ses intérêts. On ne regarde pas ses intérêts, mais on regarde ceux de Jésus-Christ. Et ensuite, ceux de Jésus-Christ, on regarde les intérêts des frères et sœurs. Donc, on ne considère pas ses propres intérêts. Celui qui comptabilise ses intérêts et qui dit, mais on ne m'a pas fait donner ça, mais on ne m'a oublié sur cette question-là, mais je suis lésé de cette manière, mais il me manque ceci, il me manque cela, il a un esprit de revendication. Et c'est un esprit charnel. Et nous n'avons pas à revendiquer. Nous avons ce que nous avons. Et nous devons être satisfaits de ce que nous avons et glorifier Dieu. Donc il y a une circoncision qui est le renoncement à soi-même. On a mis certaines choses de côté. On les a, c'est bien. On ne les a pas, tant pis. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de gagner Christ. C'est d'avoir Christ. Et Paul le dira beaucoup plus loin, cette question, la circoncision, il ne va pas employer les mêmes mots, mais il va le dire plus loin. Donc, à un certain moment, eh bien, lui qui était, comment dire, le juif idéal, si vous voulez bien regarder, il dit, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Qu'est-ce que c'est la chair? Voilà. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle la chair. Alors bon, oublier les péchés de la chair et les choses comme ça, ce n'est pas biblique. Mais disons, la chair, ce n'est pas l'enseignement biblique sur la chair. La chair, c'est un système, c'est un principe. C'est un principe de rébellion et d'indépendance par rapport à Dieu. Alors la chair, le monde, ce sont les mêmes choses. On emploie deux mots différents parce que la chair me concerne moi, le monde, c'est un système. Mais finalement, le principe est le même. C'est un système, un principe de rébellion et d'indépendance par rapport à Dieu. Le péché, est né au jardin d'Éden et c'est là que la chair a commencé. Quand Adam a péché, il a jugé qu'il pouvait prendre des décisions selon lui-même. C'est-à-dire, Dieu avait dit qu'il ne fallait pas prendre de fruits, et lui, il s'est dit, l'arbre est beau, il est donc agréable à la vue, il ouvre l'intelligence, il va me faire devenir comme Dieu, donc je prends ma décision de désobéir à Dieu parce que je trouve un avantage à désobéir à Dieu. C'est là qu'est le péché. Et donc, l'esprit charnel, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous a envahis. Donc, cet esprit charnel, nous devons toujours le mettre de côté. C'est mon esprit d'indépendance et ma liberté de me déterminer moi-même et de dire, voilà, je suis ma propre providence. Je choisis ce chemin-là parce que je pense que c'est le meilleur. Et je dis, c'est le meilleur. Donc, c'est le meilleur. Je vais aller dans cette direction-là. Et la parole de Dieu nous enseigne dans l'épître, c'est pas dans l'épître, dans les proverbes, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et c'est une grande sagesse. Combien de personnes, comme Adam, ont cru que voilà, ils avaient tout gagné. C'était parfait. Le choix d'Adam paraissait le plus merveilleux possible. Le seul problème, c'est que ce choix a conduit à la mort. Et à la mort spirituelle, avant la mort physique et avant la mort éternelle. C'est parce que inexorablement, l'une suit l'autre. Donc, l'esprit charnel est toujours un esprit mauvais. Nous devons, contre notre logique, contre notre sagesse humaine, contre nos préjugés, choisir ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous aimons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous la méditons, que nous l'approfondissons. Dieu a parlé. Il nous a parlé pour qu'on l'entende, pour qu'on le cherche. Il n'a pas parlé en vain. Il n'a pas parlé dans le vide. Il a parlé réellement dans sa parole. Et nous, nous devons avoir suffisamment de détermination à obéir à Dieu pour chercher dans sa parole la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et vous trouverez beaucoup de choses qui sont très importantes. Ne les négligez pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Alors il ne s'agit pas de pratiquer la loi de Moïse, mais il s'agit de pratiquer la loi de Christ. Quand il est dit « aimez-vous les uns les autres », c'est la loi de Christ. C'est même Jean disait dans sa première épître, « Je ne vous ai écrit pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que nous avons eu dès le commencement. Hein? » Et c'est celui qui est « aimez-vous les uns les autres ». Nous ne sommes pas libres de nous aimer ou de ne pas nous aimer. C'est la parole de Dieu nous dit qu'il faut que nous nous aimions. Et on ne s'aime pas les uns les autres, et bien on a tort. On se dispute les uns les autres, on a tort. Parce que la parole de Dieu nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Et ça, je vous cite cet exemple-là parce qu'il est le plus flagrant et le plus négligé. Mais il y en a d'autres. Mike nous a parlé tout à l'heure de la louange. Dieu nous dit de louer, rendez grâce en toutes choses. C'est comme ça. Prier sans cesse, c'est bien, on prie sans cesse. On doit se soucier d'un monde perdu. Le frère et les sœurs en Christ ont de l'importance dans notre vie. Il y a quelque chose qui... Nous ne sommes pas... vivons pas une vie égoïste, repliée sur nous-mêmes. Il dit, pourtant, moi, j'aurai sujet de vivre selon la chair. J'ai de bonnes raisons de le faire. J'aurai de bonnes raisons. Et bien, ces raisons, on pourrait dire intellectuellement, elles seraient défendables. Et même bibliquement, selon l'Ancien Testament. Et il dit, mais ces choses, en Christ, eh bien, j'y ai renoncé. Il circoncis le huitième jour. Voilà. Il avait suivi, dès sa naissance, ses parents avaient pratiqué l'ordre que Dieu avait commandé. Le huitième jour, les garçons étaient circoncis. Donc il dit, j'étais circoncis le huitième jour. Je suis de la race d'Israël, pas de problème, c'est le bon peuple. Et ensuite, de la tribu de Benjamin. Ah, mais la tribu de Benjamin n'était pas n'importe quelle tribu. Il y a un roi qui était de la tribu de Benjamin, Saül. Mais aussi, quand il y a eu la division du peuple d'Israël, 10 tribus se sont séparées des deux autres. Les deux autres, c'était Juda et Jérusalem et le roi qui est descendant de David. Mais les deux tribus qui sont restées ensemble, c'est Juda et Benjamin. Bon, il y a aussi la tribu de Lévi. Mais la tribu de Lévi, c'était un peu spécial. Elle était distribuée dans tous les... Mais les deux tribus, Benjamin et Juda, se sont liés ensemble et ne se sont jamais séparés. Et donc, c'était un titre de gloire de dire de la tribu de Benjamin. C'était mieux que de la tribu de Juda. Parce que tribu de Juda, la tribu de Juda était avec Juda. Ce n'était pas un problème. Mais l'autre tribu avait fait un choix difficile. Parce que 10 étaient partis et 2 étaient restés. Plutôt une était restée avec la tribu du roi d'Israël. Et c'était cette tribu-là. Et Paul pouvait dire de la tribu de Benjamin. Celui qui n'a pas trahi. La tribu qui n'a pas trahi, la seule qui n'a pas trahi, celle qui s'est tenue à côté du roi et qui a tenu ferme pour le roi d'Israël. Donc ce n'était pas n'importe qui et ce n'était pas un petit titre de gloire. Et ensuite, il dit « Hébreu, né d'Hébreu ». Voilà, hein, pur jus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mélange dans ma vie. Je suis vraiment impur. Bon, c'est aujourd'hui, ça passerait très mal. Mais il dit « Hébreu, né d'Hébreu ». C'est vraiment, là, il est sans faille. Et puis, il dit « Quant à la loi, pharisien ». Alors nous avons beaucoup de préjugés contre les pharisiens. Mais qui étaient les pharisiens ? Bien sûr, on a tout ce que le Seigneur Jésus a dit sur les pharisiens. Il a dit pharisiens hypocrites, etc. Il a dit pas mal de choses. Mais la secte des pharisiens, c'était la plus stricte du peuple d'Israël. C'était ceux qui mettaient en pratique, qui avaient la prétention du moins, de mettre en pratique la parole de Dieu, la loi de Moïse, le plus sérieusement possible. Donc, ils s'astreignaient à avoir beaucoup de problèmes. Il ne fallait pas ceci, il fallait pas ci, il fallait pas là, il fallait pas aller là, il fallait pas manger ci, il fallait pas. Et c'était tout, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. Et je peux dire que entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, la différence était parfois très difficile à faire. Je me rappelle, c'était un petit journal juif que j'avais trouvé. Maintenant, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Mais vous savez que les juifs portent des phylactères. Hein, ils mettent ça autour, ils mettent au front. Et un juif religieux le porte presque jour et nuit. C'est surtout quand il fait la prière, mais en toutes circonstances quasiment. Hein. Et même quand il mange, voilà. Alors il est en train de manger sa soupe cachère. Allez, ben, on est hébreu, né d'hébreu, ou on est un bon pharisien. Donc il mange sa soupe cachère. Et puis le cordon se détache et les phylactères tombent dans la soupe. La question, est-ce que la soupe est toujours cachère? Ah ah! Eh oui! C'est cela être pharisien. Parce qu'on se pose des questions sur cela. Et en fait, le petit journal donnait la réponse parce que c'était sans rire, hein. Nous, moi, je le dis, bon, ça vous fait sourire, hein, à la limite même rire. Mais le journal ne riait pas. C'était quelque chose de très sérieux, parce que c'était un journal de juifs très orthodoxes. Et il distribuait ça à la Pâque. Hein. Donc je m'avais donné ça. J'ai été très surpris, parce que je ne m'étais jamais posé la question, et je comprends qu'un juif puisse se poser la question. Et c'était déterminé, je vous rassure tout de suite, la soupe n'est plus cachère. Eh bien évidemment, il y a de la transpiration dans ce machin. Il y a de la poussière, il y a toutes sortes de choses. Hein, c'est contaminé. Évidemment, vous aviez bien compris que la soupe n'était plus cachère. Donc elle est bonne pour la poubelle. Hein. Ce n'est même pas la peine d'essayer de la boire. Donc voilà. C'est décidé maintenant. Mais pour un pharisien, la vie était très compliquée. Très, très compliqué. Et depuis, on peut dire sa naissance, pour un garçon surtout, bon, pour les femmes sans doute aussi, mais depuis la naissance jusqu'à leur mort, tout était règle sur règle. Il y a des interdits, il fallait se souvenir de tous les préceptes, il fallait faire ceci, il fallait faire ça, il fallait là, c'était vraiment très compliqué. Et donc, tout simplement, parce qu'il y avait une recherche méticuleuse de la sainteté. C'est au départ, les premiers pharisiens étaient désireux de la sainteté. Et on peut presque faire remonter les pharisiens à Néhémie, quand il y a eu ce moment où ils ont lu la loi, le peuple s'est effondré en larmes, ils ont compris. Et là, ils ont mis en dehors toutes les épouses qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Ils ont purifié leur vie. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de vivre purement. Et on peut dire que la secte des pharisiens a quasiment commencé à ce moment-là. Donc, elle a commencé par un réveil. Donc, ne méprisez pas, parce que c'est pas parce que les derniers ont été corrompus que les premiers était méprisable. C'est quelque chose qui est comme toutes les choses où il y a l'homme, au fur et à mesure, eh bien, il y a des déviations, il y a des appesantissements, il y a des choses qui font que ce n'est plus aussi bien qu'au départ. Donc quand Paul dit pharisien, c'est-à-dire que lui était un observateur strict de la loi. Et lui, s'il y avait des pharisiens hypocrites, Paul n'était pas un hypocrite. Paul était un pharisien qui voulait plaire à Dieu. Et même il voulait plaire à Dieu au point qu'il dit, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Il croyait servir Dieu. Il croyait vraiment faire l'œuvre de Dieu. Il croyait que vraiment Dieu était de son côté et qu'il faisait exactement la volonté de Dieu. Il était aveugle. C'est pour cela que Dieu lui a fait grâce. Il s'est révélé à lui. Quand il s'est révélé, Paul a fléchi le genou. Il a compris qu'il persécutait Christ. Mais d'un autre côté, son zèle prouve que quand même il était de bonne foi et qu'il était honnête dans ce qu'il faisait. Il allait jusqu'au bout. C'est tout. C'est bon, après les chrétiens peuvent s'en plaindre, mais on ne peut pas dire que c'était un hypocrite. C'est et même, je vais vous confier une petite chose, mais je pense que le jeune homme riche qui a rencontré le Seigneur Jésus, c'était Paul. Quand il est allé le voir et qu'il a demandé, voilà, je pense que c'était Paul. Parce que Paul, exactement à cette époque-là, était au pied de Gamaliel, il entendait. Et Gamaliel était à Jérusalem. Donc il était au pied de Gamaliel exactement à ce moment-là. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu une rencontre. Et qu'il a voulu, et comme les pharisiens étaient riches. Et là, il a dit non, ça ne peut pas être le Messie. Parce que et on ne peut pas tout vendre. C'est pas, il a pas renoncé à tout à ce moment-là. Et je pense qu'il a persécuté l'Église parce que il n'a pas apprécié Christ. Voilà, c'est dans ce qu'il lui demandait. Bon, ça mériterait peut-être d'aller un peu plus loin. Mais je pense que, parce qu'il dit irréprochable quant à la justice de la loi. Et qu'a dit le jeune homme riche? Ses commandements, je les ai suivis depuis mon enfance. Et le Seigneur Jésus ne lui a pas dit, oh, ben, tu exagères. Non, tu es un menteur. Parce que si il n'avait pas observé ces choses depuis sa jeunesse, s'il avait dit quelque chose de faux, le Seigneur Jésus lui aurait dit. Il lui aurait dit hypocrite. Mais il ne lui a pas dit. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de juifs qui pouvaient dire irréprochable quant à la justice de la loi. Donc c'est une. Comment dire? Je penche de ce côté-là. Voilà. Et je pense que c'est il y a une certaine logique. Après, vous pouvez ne pas le penser. Hein, vous êtes bien libre de le faire. Voilà, il dit irréprochable quant à la justice de la loi. Donc, je vais terminer là et on verra la suite de ces versets plus tard. Mais ce que Paul nous enseigne, c'est que il y a un renoncement à soi-même. Il y a une mise à l'écart de nos, comment dire, de tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons nous vanter d'être. On pourrait être ceci, on pourrait être cela. Vous savez, il m'est arrivé d'avoir la carte de visite de certains chrétiens. Je me rappelle d'un chrétien, pasteur de son état, docteur en théologie, docteur en droit, docteur ès lettres, et il avait 3 ou 4 doctorats, et c'était sur sa carte de visite, pasteur de l'église une telle. Et en fait, cela me dit, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à ceci, quant à cela. Voilà. Ils mettent tout ce qu'ils sont. Mais qui est-ce que nous sommes en Christ? Des pécheurs sauvés par grâce, par un effet de la miséricorde de Dieu. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Nous étions tous perdus. Et un jour, nous avons été sauvés. Et que ce soit un docteur en théologie, en droit ou en ceci ou en cela, ou un balayeur de rue, c'est le même sang de Christ qui lave des mêmes péchés. Vous ne faites pas de différence. Et dans le ciel, eh bien, Dieu ne va pas recevoir le docteur en théologie mieux que le balayeur, ni mieux le balayeur que le docteur en théologie. Hein, parce qu'on pourrait imaginer qu'il fait des préférences. Non, Dieu ne fait pas de préférence. Nous sommes tous égaux, lavés par le sang de Jésus-Christ, et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Voilà.